Il est 22h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Enfin, un tabou qui se lève. On peut évoquer les abus sexuels sur enfants sans qu'on nous regarde comme si nous parlions d'un truc exceptionnel qui n'arrive pratiquement jamais. Si je vous raconte ça, c'est bien parce que les premières fois où j'abordais ce thème dans l'émission, on me répondait que ça n'intéressait personne. Et ce n'est pas mon invité Bruno Clavier qui me dira le contraire, parce que oui, il y a eu sans doute et il y a encore ce tabou sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs. Pourtant, le nombre de victimes est important et si on leur permettait d'être entendus plus tôt, je suis sûre que les dégâts seraient moindres. Et c'est ce que nous allons faire durant ces deux heures. On va donner la parole aux victimes qui, grâce à l'écoute de Bruno Clavier, iront peut-être déjà un tout petit peu mieux. Et il me semble essentiel aussi d'évoquer les quelques indices qui peuvent laisser à penser qu'un enfant est victime. C'est important pour les parents qui nous écoutent, mais aussi pour tous ceux qui travaillent en compagnie des enfants. Alors, je vous invite, de venir nous rejoindre pour poser vos questions ou pour témoigner. Et bien sûr, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Bruno Clavier.
Bonjour.
Oui, c'est encore un peu un tabou, cette question d'inceste, et c'est pour ça que je continue régulièrement à faire cette émission sur ce sujet, et de préférence avec vous, puisque vous connaissez, j'allais dire malheureusement, très bien ce sujet.
Je m'occupe beaucoup de ça, oui.
Vous êtes psychanalyste, psychologue, clinicien, vous avez écrit beaucoup de livres, notamment « L'inceste ne fait pas de bruit ». Et puis aussi ce livre, « Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles » aux éditions Payot. Et c'était un peu à ce livre que je faisais allusion quand je disais que vous connaissez aussi ce rejet du sujet, comme si...
C'est un tabou. Alors heureusement, les choses changent. Et là, il y a eu la fameuse commission, la CIVISE. Et là, il y a un chiffre qui est maintenant devenu officiel et qui est énorme. Donc là, on ne peut plus être dans le tabou parce que c'est 160 000 enfants par an.
Absolument.
Hein, donc c'est beaucoup.
C'est 160 000 tous les ans.
Ça veut dire que dans 10 ans, ils seront 1,6 million concernés. Quoi.
Si on ne fait rien.
Et oui.
Et c'est difficile, hein. C'est difficile parce que ça se passe dans les familles, ça se passe généralement avec des proches. Hein. Bon, il y a aussi, ça se passe aussi dans tous les endroits où il y a des, parce que les pédocriminels évidemment vont aller travailler là où il y a des enfants.
C'est ça. Mais si on regarde les chiffres, notamment de la CIVISE, qui ont fait beaucoup d'enquêtes, l'espace public, c'est peu, hein.
C'est peu par rapport aux familles.
C'est peu, c'est plutôt, je crois, 18%. Enfin, j'ai un peu oublié les chiffres. C'est essentiellement au sein des familles.
Et c'est assez fou. C'est pour ça, peut-être, que ce tabou a longtemps résisté, parce que personne n'a envie d'imaginer que dans sa propre famille,
c'est pas glorieux.
Il y a quelques personnes qui abusent des enfants. Ça paraît d'ailleurs. Objectivement, ça paraît assez incroyable. Quand on est un adulte normalement formé, ça paraît assez incroyable que l'on puisse avoir envie de tripoter, pour prendre un mot vague, de tripoter un petit garçon ou une petite fille de moins de 10 ans.
Enfin, alors ça paraît incroyable, mais ce ne l'a pas été pendant pas mal de temps.
Et ça l'est toujours, d'ailleurs.
Voilà, c'est toujours, quelques temps, les choses donc sont en train de changer, mais quelques temps, c'était presque dans certaines familles naturelles, on disait que c'était de l'initiation, de toute façon on n'en parlait pas. Tout étant secret, caché, ça avait lieu, mais on n'en parlait pas.
Mmh. Je conseille d'ailleurs, je suppose que vous avez dû le voir, mais je conseille à ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de voir un film qui est vraiment, je trouve, très juste sur ce sujet, c'est le film Festen.
Festen qui est vraiment incroyable.
Ouais, moi, je l'ai revu récemment. Oui. Je l'avais vu évidemment à l'époque, mais récemment, et je trouve qu'il a même plus de force aujourd'hui.
Oui, parce que c'est vraiment le film de la vérité. Hein, c'est-à-dire on dit vraiment toutes les choses. Il y a eu d'autres films depuis, mais on ne dit pas exactement comme on dit dans ce film-là.
Ouais. Oui, je trouve que
c'est un monument. Ouais.
On voit la complicité familiale dans ce film.
C'est toujours des systèmes familiaux. Il y a pas d'inceste, il y a pas d'abus sexuels sur les enfants sans cette espèce d'organisation familiale terrible, puisque ça mélange la mauvaise foi, le déni, le manque d'attention, parce que évidemment c'est tout ça en même temps, quoi.
Alors vous qui recevez évidemment beaucoup de patients qui ont été victimes, vous devez entendre un peu la même chose que moi, c'est parfois souvent même la victime qui est rejetée par la famille.
C'est ça, et que celle qui parle peut être rejetée, et encore aujourd'hui. Et puis, y a plein de phénomènes comme ça familiaux qui sont assez terribles, donc c'est une machine à pouvoir affronter, et plus on en parlera comme dans cette émission, plus on se dira « Ah oui, c'est possible, c'est possible, donc si c'est possible, ça va s'arrêter hein, ». Il faut bien comprendre, pour que ça s'arrête, il faut qu'on pense que c'est possible. Mais si on pense que c'est pas possible et que ça a lieu, bah, ça va pas s'arrêter.
Donc c'est pour ça qu'on en parle. Je voulais déjà, aujourd'hui tout particulièrement, peut-être donner quelques indices à ceux qui nous écoutent et oui. qui aimeraient, comme nous, que ça s'arrête, qui permettraient de voir qu'un enfant est peut-être victime d'abus sexuels. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qui fait qu'on repère ? Parce que quand on connaît le chiffre, hein, 160 000 par an, quand on sait que c'est une femme sur 4, un homme sur 6 qui a vécu ça avant ses 15 ans, on imagine bien que dans une classe, il y a forcément...
C'est ce qu'on dit.
Il y a forcément toujours
des... il y en a au moins un par classe.
Au moins, forcément.
Voilà, un par classe, mais bon...
Donc comment, qu'est-ce qui permettrait...
Alors c'est la complexité.
Parce que
c'est la complexité, c'est que c'est jamais évident avec les enfants. Et plus ils sont jeunes, moins c'est évident. C'est-à-dire qu'un enfant spontanément ne parle pas de ça quand ça lui est arrivé. Spontanément,
pourquoi
c'est rare. C'est rare.
Pourquoi ?
Pour plein de raisons. Alors d'abord, parfois parce que les adultes lui ont dit de pas parler. Enfin, pas parfois, souvent.
Hein, à partir du moment où la peur de parler. Donc
voilà, il faut bien comprendre. On dit à un enfant toute sa vie obéis. Enfin, en gros, un enfant est immergé dans le monde des adultes. Il y a celui de la famille, puis il y a celui de l'école, il y a celui de la cantine, partout des centres de loisirs. On lui dit toujours tu vas obéir aux adultes. Bon, donc à partir du moment où il est là, il peut pas contester. Donc s'il se passe quelque chose, on lui a pas appris à contester ça. Et s'il lui passe quelque il se passe quelque chose dont on ne lui a pas parlé, qu'il ne comprend pas, l'enfant aura tendance à ne rien dire. Ou il va dire de manière indirecte. Hein, heureusement, quelques enfants parlent. C'est la grande complexité, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et pareil, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu quelque chose, mais dès qu'il y a un changement
de comportement,
et surtout un retrait, c'est pour ça que je suis plus prudent avec les choses un peu spectaculaires chez les enfants. Souvent, c'est pas spectaculaire. Donc, c'est compliqué puisque, par contre, on va avoir un rétrécissement de l'enfant, un retrait, une mise en solitude, des choses, une tristesse qui commence à s'installer, quelque chose d'étrange. Mais très souvent, les choses ne seront pas dites directement. C'est rare.
Et qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut poser la question directement à l'enfant ou il faut lui demander si tout va bien, si...
C'est-à-dire, il faut surtout pas suggérer. Hein, parce que là, on rentre dans des affaires étranges. C'est-à-dire que l'enfant, il ne faut pas lui suggérer, il ne faut pas lui dire on t'a fait, un adulte aurait fait des choses sexuelles, des choses comme ça. Il faut commencer à lui dire qu'est-ce qui ne va pas, et il va le dire de façon indirecte. Il faut traduire. Un enfant dira la plupart du temps les choses de façon indirecte.
C'est-à-dire ?
Je peux donner un exemple, c'est un enfant que je reçois... que j'ai reçu là pendant pas mal de temps, qui est probablement abusé par son grand-père. Et lui, quand il a dénoncé le grand-père, il a pas dit, il a dit j'en avais marre que grand-père veuille toujours qu'on aille faire pipi ensemble. C'est comme ça que ça a commencé.
Oui.
Ça, il a pas dit un truc incroyable. Mm-hmm. Or, c'était le début de l'affaire. Donc ça veut dire, il faut faire attention aux détails. Je pense à une autre petite...
Cela dit, c'est pas anodin, un enfant qui dit « grand-père veut toujours qu'on aille faire pipi ensemble ».
Oui, mais...
remarquez, vous avez raison, nous on imagine bien ce que ça veut dire, mais peut-être que ceux
qui nous écoutent... Et puis certaines personnes peuvent se dire « bah, il est bizarre, il était envie qu'il aille faire, qu'il aille faire pipi dans l'herbe tous les deux ensemble ». C'est un peu bizarre, mais il
n'y
a pas mort d'homme, quoi.
C'est
là qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que ça sera souvent de façon indirecte. Et... Il y a un mot, je reviendrai peut-être là-dessus dans l'émission, il y a les femelles transgénérationnelles qui font que des fois des enfants dénoncent des choses qui ne leur sont pas arrivées et ça fait aussi des choses compliquées.
Mais qui est arrivé à l'un de leurs parents.
Voilà, et souvent qui est arrivé à leurs parents. Ça rajoute la complexité.
C'est tout à fait compliqué.
Et des fois, ils vont aussi... Alors on a des cas, on a même des faits divers comme ça, dénoncer la mauvaise personne. Encore une autre complexité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dénoncer, mais pas la bonne personne.
Oui, donc on voit bien que c'est compliqué, évidemment, parce que les enfants n'ont pas encore toute la capacité, évidemment, à réagir comme des adultes, hein, forcément.
Voilà, c'est pour ça qu'à l'enquête, si on demande à tous les adultes qui ont eu des abus enfants, ils vous diront à peu près que ça s'est passé sous ce mode-là. Ils disaient rien, ils rentraient dans leur chambre, ils étaient tristes, voilà, ils bougeaient plus. Quelque chose qui fait qu'ils ne bougent plus, ou alors, éventuellement, ils surbougent, quoi, ils bougent trop. Oui. C'est plus le retrait que j'ai observé, voilà. Ouais.
On vous donne la parole sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous savez que c'est aussi vos témoignages qui font avancer les choses.
Sud Radio Béziers
102.6
Sud Radio.
Regarde-toi assise dans l'ombre à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste, psychologue clinicien, auteur de L'inceste ne fait pas de bruit aux éditions Payot, et c'est justement pour ça qu'on en parle, parce qu'il faut faire du bruit. Merci Nathalie de témoigner, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour.
Oui, merci de me recevoir à l'antenne. Ben écoutez, merci à vous de continuer à en parler, et bravo. Parce que vraiment, c'est violent, effectivement. Alors moi, mon histoire est très violente, effectivement, parce que ça a été mon grand-père paternel, à 3 ans. Ça a été mon papa, à l'âge de 11-12 ans. Et ça a été mon grand frère, à l'âge de 13 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, que j'ose me marier. Enfin, je me suis mariée pour partir de chez moi, en fait. Mmh. Donc, j'avais 4 grands frères, et j'ai été l'objet sexuel de la famille, quoi. Mmh. Voilà.
Ce que malheureusement on repère souvent, hein, Nathalie, je crois que je crois que comme s'il y avait une sorte de marque invisible évidemment sur la victime et chacun se permet de réutiliser.
C'est-à-dire si je me permets, j'ai un peu développé ce sujet. J'ai appelé ça le triptyque. Vous voyez, vous êtes un peu dedans. J'ai appelé ça le triptyque, c'est-à-dire un abus très précoce, hein, 3 ans, 4, 5 ans. Ouais. Ensuite, un autre abus. Oui, c'est ça, 11, 12, 13 ans, et puis, ou après 15, 16 ans, et souvent, ça, pour beaucoup de femmes, ça se termine par un viol vers 18, 19, 20 ans. Ouais. Et moi, j'explique ça beaucoup par le premier abus. C'est lui qui a. Il y a quelqu'un qui s'appelle Muriel Salmona, qui travaille beaucoup là-dessus, qui a parlé de formatage, et c'est un formatage. C'est-à-dire que l'enfant est initié. En gros, vous avez été malheureusement initié par grand-père paternel, puis après tout le monde a suivi. Quoi.
Alors, mon grand-père a été très vite. Je me suis protégée quand même toute seule, mais mon grand-père a essayé à plusieurs reprises, donc je faisais en sorte. Mais il se masturbait, il ouvrait la porte, il était en train de se masturber, il me disait regarde. Ou alors quand j'allais aux toilettes, parce que rien ne fermait à clé chez mes parents, il n'y avait aucune intimité. Donc je baissais mon pantalon, c'était montre-moi tes poils qui poussent après, mais bon, il essayait de m'agresser régulièrement, mais je
m'excuse, hein, c'est une agression en soi, hein. c'est important. Qu'il ait essayé, c'est déjà une agression et c'est déjà un traumatisme.
Non mais c'est très violent même.
On peut même penser qu'il n'a pas été clair avec votre père, ce qui fait que votre père après prend la suite, quoi.
Ouais, mon papa prend la suite, mais mon papa était pas clair de toute façon. Hein. Mon papa était pas clair de toute façon, voilà. Et après, je pense qu'il a fait des projections sur mes frères, quoi. Alors, il y a que mon frère aîné qui m'a vraiment abusé. Le deuxième de mes frères disait toujours, oh putain, t'es une belle gonzesse, ma sœur. Et si t'étais pas ma sœur, je te baiserais. Mmh. Voilà. Mon frère, le troisième, lui, à plusieurs reprises, a voulu que je le masturbe. Et le quatrième, il me disait, putain, ma sœur, mais t'es une véritable plémette. Donc, ils avaient des regards, c'est ça.
Mais c'est là où on voit, en effet, je vais vous poser la question, et votre mère dans tout ça, mais c'est là où on voit qu'il y a un dérèglement familial. Hein. On parle pas comme ça à sa sœur. Hein. Et donc, si tous les frères parlent comme ça, c'est qu'il n'y a pas eu dans la famille, des parents, des grands-parents, un respect de la pudeur de chacun.
Aucun respect de rien.
Dans des cas de famille comme ça, pour avoir travaillé beaucoup avec beaucoup de familles, il est même fréquent que le grand-père ait abusé tout le monde. C'est un peu la clé, souvent c'est le dénominateur commun.
Peut-être.
Et il initie tout le monde, alors après tout le monde reproduit, parce que on croit, c'est pas spontané, un enfant ne naît pas pour être abuseur, hein. Il faut qu'on lui ait appris quelque chose.
Mais sans imaginer qu'il ait forcément abusé tout le monde, il a forcément eu un comportement qui n'est pas correct avec tout le monde, votre grand-père.
Ma jeune sœur dit que non.
Mais peut-être qu'il s'est aussi baladé à poil devant elle, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire.
Jamais à poil. Mais mon père, oui. Mon père le faisait. Puis mes parents adoraient être nus sur la plage. Donc mon père, ça le dérangeait pas de se balader.
Nu sur la plage, on n'est pas dans.
Ça existe.
Ça va. Mais.
Mais à la maison, non, ils n'avaient aucune pudeur. Oui, mes parents se baladaient nus. Mon père rentrait dans la salle de bain. Moi, systématiquement, quand j'avais 10, 11 ans, là, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais nue, j'étais en train de me laver, quoi. Évidemment. Et mon père arrivait, quoi. La bite à l'air, franchement, c'était absolument pour moi, ça m'agressait, quoi. Mon père était là, il me disait dépêche-toi, allez, lave-toi. Mais c'était toujours quand j'étais en train de me laver, le petit minou.
Comme par hasard, oui.
Oui. J'avais l'impression d'avoir affaire à un chien, quoi, qui venait.
Et vous savez, c'est une catégorie pénale, hein. C'est une catégorie pénale. C'est voyeurisme, exhibitionnisme, c'est pénal.
Non, mais ça m'a agressé, vraiment, c'était de l'agression pour moi.
Et votre mère, justement, quelle était son attitude vis-à-vis...
Ma mère, elle avait 10 gosses, on est 10 enfants, elle avait la tête dans le guidon, elle ne se préoccupait pas de ça. Moi, j'étais sans souffle-douleur, j'étais l'aînée des filles, donc j'étais la bonne de la maison. Voilà. Donc, j'avais droit à rien dire. Mes parents me terrorisaient. J'étais terrorisée, j'ai vécu dans la terreur et l'angoisse permanente, moi. Ils m'ont volé l'enfance et l'adolescence, ouais, vraiment.
Mais en tout cas, Nathalie, je ne sais pas comment vous... Mais oui, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'on l'entend dans votre voix,
Je suis fière de moi.
Bravo à vous. Et merci pour vos témoignages, parce qu'on a besoin de ça.
Oui, ça me Ouais, c'est vrai que parce que c'est un gros travail et j'ai 60 ans aujourd'hui, je vais tout juste bien. Hein.
Et puis j'imagine qu'il n'y a pas eu. J'imagine qu'il n'y a pas eu. Excusez-moi, je vais vous couper, mais il n'y a pas eu d'acte de justice dans tout ça.
Non, j'ai pas voulu. J'ai pas osé. J'étais déjà rejetée par la famille. Alors plus personne ne me parlait, mais c'est pas grave. J'ai retrouvé l'amour dans le cœur de ma maman. Je me suis réconciliée avec ma mère. Je lui ai pas parlé pendant 4 ou 5 ans, mais j'ai fait un gros travail derrière. Voilà, qui m'a enlevé toute la colère et aujourd'hui je ne partage que de l'amour avec ma maman et elle me reconnaît en tant que victime.
Jusque-là,
ce n'est pas le cas. Donc ça, ça a pensé une blessure dans mon cœur, mais énorme.
Oui, et puis vous avez l'air de bien vous aimer et de vous respecter, Nathalie. Ouais. C'est ça surtout que j'admire chez vous, parce que c'est difficile de s'aimer et se respecter quand on n'a pas été aimé et respecté dans son enfance. Hein.
Ouais. Ah, aujourd'hui, non, mais là, personne... Aujourd'hui, c'est... ouais, je suis arrivée à un stade où non, alors là, il n'y a rien qui va me déstabiliser. C'est, voilà, on ne va pas me marcher... Enfin, je ne peux pas. C'est, voilà, le travail que j'ai fait, je ne peux pas. Je dis toujours aux gens, si vous n'êtes pas content, vous passez votre route ou vous me laissez tranquille, peu importe. Mais pour moi, c'est comme ça. Voilà.
Ça montre bien, Nathalie, qu'on peut s'en sortir à condition, évidemment, de s'en donner les moyens. C'est ça votre témoignage. On démarre, si je puis dire, avec quand même un message positif.
Positif. Et quand vous dites le travail que j'ai fait, vous voulez dire quoi ?
Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé. Ma dernière thérapeute, c'est celle qui m'a vraiment aidée. J'ai fait de la kinésiologie avec elle.
Très bien.
Mais elle a aussi étudié la médecine tibétaine. Donc c'est quelqu'un qui, vous savez, moi je crois, j'ai une perception, je suis médium si vous voulez, à travers mes mains, j'apaise beaucoup de gens hein, à travers mes mains si vous voulez. Donc j'aide aussi l'autre aujourd'hui. Donc,
et d'ailleurs toujours... Nathalie, on en parlait avec Bruno Clavier un soir, je me souviens, et on était assez d'accord là-dessus. Beaucoup de personnes qui enfants ont subi de la violence, que ce soit sexuelle ou pas, ont une capacité médiumnique supérieure.
Comme si se relier
aux étoiles permet de tenir debout.
Avec le travail que vous faites, finalement, on élève le niveau de conscience. On va au-delà de ce qui s'est passé sur cette terre.
Si on s'en sort, c'est comme ça
que l'enfant survit aussi. Hein. Il sort. On observe qu'il sort de son corps même. Il peut sortir du corps.
Et puis, je pense,
comme beaucoup d'autres, ils se disent souvent que ce monde des adultes est complètement fou. Donc, ils essayent d'élever le débat.
Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Donc, mais aujourd'hui, je retrouve ma véritable intériorité, quoi, ma véritable lumière, et je trouve ça tellement fabuleux de faire ce travail, malgré tout, de se libérer de ça, et on peut s'en sortir, oui, effectivement. Ouais.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Nathalie.
Oui, merci.
Merci de ce beau témoignage. On va continuer, bien sûr, dans un instant, avec vous, bien sûr, au 0826-300-300. N'hésitez pas à prendre la parole.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Valence.
95.1.
Sud Radio.
Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Ruedesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage.
Ruedesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix.
Ruedesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins.
Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur ruedesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion.
Ne bougez pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye Sud Radio.
Ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille.
Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit alors, jubile. Ce sera un garçon et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux?
Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu. Jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille.
Et je sais que bientôt, toi aussi, tu auras des idées et puis des idylles. Des mains sur tes bas, Cécile, ma fille.
Moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit, mais au matin c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais.
Que toujours on te touche comme moi maintenant,
comme mon souffle sur tes cils,
mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille.
Cécile. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste, psychologue, clinicien, on peut le dire, hein, spécialiste de l'inceste et des abus sexuels durant l'enfance. Hein,
oui.
Vous acceptez cette spécialité?
Malheureusement.
Non, pas malheureusement.
Heureusement peut-être.
Heureusement, parce qu'il faut... C'est pas si simple, encore une fois, pour tous les thérapeutes d'aborder ce sujet. Hein, encore
Oui, d'autant que honnêtement, c'est pas jusqu'à aujourd'hui, c'est pas dans les formations. Hein, c'est pas à la fac que j'ai appris travailler ça.
On est bien d'accord, donc c'est heureusement que vous êtes là, et je suppose que vous aidez certains thérapeutes à...
Bah oui, j'essaye de plus en plus de former, parce que c'est très spécial l'inceste et les violences sexuelles, et puis bon, j'en ai parlé dans un livre, comme il y a eu une sorte de déni, on va dire à partir de la théorie freudienne du fantasme, il y a eu un déni des violences sexuelles pendant un siècle, donc on a du chemin à rattraper, quoi.
Et on sait ce qu'on fait. Bonjour Céline.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour.
Donc vous, c'est votre beau-père hein, qui a abusé de vous?
C'est ça. Donc de moi et de mes deux sœurs également.
Mmh. Donc voilà, c'est votre mère qui se remarie, ou en tout cas qui vit avec cet homme, c'est ça?
C'est ça, oui. Et quand, c'est mon beau-père.
Et vous aviez quel âge quand il a commencé à abuser de vous?
Alors,
près,
oui, parce que c'est un peu flou, en fait. Je pense que ça devait être à l'âge entre 10 et 11 ans.
Mmh.
Voilà. Donc,
plus précisément, vous avez quel âge quand votre mère se met avec cet homme?
Oh, j'étais petite, je devais avoir 5 ans.
D'accord.
Parce que, enfin, excusez-moi, hein, mais je pense que vous pensez à la même chose que moi, Bruno Clavier.
Oui. C'est-à-dire que il est possible que... C'est pour ça que vous dites que c'est flou, il a peut-être commencé avant.
Alors, je pense à ce moment-là, à 11 ans, contrairement à certaines personnes qui témoignent, etc., j'avais quand même l'esprit bien clair,
d'accord,
me semble-t-il.
Ah bon? D'accord, oui, comme vous avez dit que c'est flou, comme vous dites que c'est flou, c'est juste ça. C'est
au niveau du commencement, oui, ah, oui au niveau du commencement, d'accord. Des choses, oui.
Ok.
Voilà, et donc pour le coup, j'ai subi pendant un moment parce que je pense que, dans mes souvenirs, je comprenais pas bien ce qui se passait.
Bien sûr,
bien sûr. Et j'avais l'impression de culpabiliser. Par rapport à cette approche qui, pour moi, n'était pas naturelle. Je l'ai senti tout de suite.
Justement, c'est important ce que vous dites, Céline. On sait que très souvent, l'enfant culpabilise. Mais vous vous sentiez coupable de quoi exactement est-ce que vous pourriez, plus clairement, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour que ceux qui nous écoutent comprennent. En quoi vous étiez coupable dans votre petite tête de petite fille de 11 ans?
Alors, parce que on a le sentiment quand même que c'est quelque chose de pas naturel et de pas bien.
De pas bien, oui.
Comme je disais, voilà. Mm-hmm. Et en même temps, on se dit que si on répète ces choses, notamment à ma mère, puisque voilà, c'était elle qui était concernée, du coup. On a l'impression qu'on va faire voler en éclats, et moi... J'étais jeune, mais j'avais déjà... Je me disais... Alors, est-ce que c'est parce qu'elle s'était remariée?
Bien sûr.
Qu'elle avait eu déjà... J'avais été placée chez ma grand-mère, etc. Et on se dit que la famille, elle va... Qu'ils vont se séparer, qu'on va être responsable de la séparation de ses parents, de la famille qui vole en éclats.
Bien sûr.
Alors, avec ces mots d'enfant,
bien sûr.
Que j'explique là, voilà.
Et est-ce que vous aviez un tout petit peu le sentiment aussi de peut-être de prendre cet homme à votre mère?
Pas du tout.
Pas du tout, d'accord, ok.
Non, pas du tout.
C'était juste j'avais pour protéger...
Franchement, du dégoût. Ah oui, non, mais franchement, du dégoût et... Je me souviens de lui avoir dit parce que ça s'arrêtait pas et j'avais des peurs. Je ne me comportais plus de la même manière que je me comportais auparavant. Ce qui était étonnant, c'est que j'avais l'impression que ma mère ne le voyait pas.
Oui, malheureusement.
Mais parce que j'étais jeune à ce moment-là.
Et pourquoi vous dites j'avais l'impression? Vous pensez qu'elle le voyait aujourd'hui?
Avec le recul, oui.
Oui.
Quand je suis de... Oui.
Surtout s'il y avait vos sœurs, ça fait beaucoup, quoi.
Oui, oui.
C'était des petites sœurs ou des grandes sœurs?
C'était des petites sœurs. Alors, avais une qui a 4 ans d'écart avec moi.
D'accord.
Et donc, la petite dernière, qui a encore 4 ans avec la deuxième, donc ça fait 8 ans d'écart. On a 8 ans d'écart avec la plus jeune et 4 ans d'écart avec celle du milieu.
D'accord. Oui, donc quand elle se met avec cette ordure, on va l'appeler comme ça,
oui.
Votre dernière petite sœur avait à peine 3 ans, quoi.
Eh bien non, parce que c'était sa propre fille.
Ah, oui,
c'était
d'accord.
Sa propre fille qui l'abuse aussi.
Oui. Oui.
D'accord.
Tout à fait.
Et il y a eu une dénonciation ou pas?
Alors, il n'y a pas eu de dénonciation... comment je dirais, mis sur la table comme ça, puisque moi, à mes 18 ans, j'ai quitté la maison très rapidement. Puisque en plus d'avoir été élevée dans ces conditions, il y avait beaucoup de brutalité et de violence au niveau de l'éducation.
Mmh.
Voilà, donc c'était un tout, je vais dire. Et quand je suis partie, il s'est passé plusieurs années, et en fait, on faisait comme si rien n'était. On se réunissait à Noël. Moi, entre-temps, j'ai fait ma vie de femme, etc. J'ai toujours eu le sentiment que ça n'avait pas eu de répercussions sur ma vie de femme. Et il y a un moment donné, j'ai attendu quand même 40 ans, je me souviens. J'ai attendu 40 ans. Et comme rien n'était bien, tout ce que je faisais pour ma mère, c'était jamais bien. Et quoi que je fasse, ce n'était jamais bien. Que ce soit l'éducation de mes enfants, que ce soit je venais chez elle pour un petit peu discuter, boire le café, etc. Donc forcément, rien n'était bien à ses yeux. Mes compagnons n'étaient pas bien, aucun n'était bien, tout était négatif.
Ouais.
Et il y a un moment donné, à 40 ans, je me suis raisonnée moi-même et je me suis dit, finalement, quoi que tu fasses, tu recherches je ne sais quelle reconnaissance de je ne sais quoi, d'ailleurs. voilà, auprès d'elle. Et je lui, voilà, je me souviens, un matin, je l'ai appelée. Et on a eu une forte discussion. Elle a été encore dans le déni. Et bah, je lui ai dit, je suis sûre et certaine que tu étais au courant de ça. Tu as laissé faire. Parce que je me suis rendu compte, ça pouvait pas être autrement. Elle était au courant.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y avait eu des choses. Enfin, il y a eu un chantage qui s'exerçait entre deux. Enfin, c'était assez fou, là. Maintenant, quand j'y pense, c'était assez glauque, quoi, on va dire.
Je pense, Céline, hein, vous me dites si je me trompe. Il y a des femmes, hein, qui sont d'une certaine manière prédatrices, puisqu'elles permettent à leurs compagnons d'utiliser leurs enfants.
Oui, mais je pense que pour elle, c'était avec le recul dans ma vie de femme, et maintenant, enfin, la connaissant bien,
oui.
Petit à petit, on connaît bien ses parents quand on évolue en tant qu'adulte et quand on a des enfants. Et je pense qu'elle avait trouvé cette solution, finalement, pour être tranquille et...
C'est ça, oui.
Pour être tranquille et être, je veux dire, à l'abri, entre guillemets, du besoin et ne pas forcément aller travailler, etc. Et dans sa petite tête, je pense qu'elle se disait qu'en tant que femme avec... bon, à l'époque, donc elle avait déjà 3 enfants, puisqu'en tout, elle en a eu 5. Elle n'a jamais travaillé. Et je pense que dans sa petite tête, elle s'était dit que bon, bah, c'était une façon...
confortable, oui.
De rester avec lui, et puis on voit rien du tout, et voilà. Mais au dépend de ses propres enfants. Et moi, quand je suis devenue adulte, ça, je ne l'ai pas supporté. Donc j'en ai parlé à ma sœur qui avait 4 ans d'écart et qui avait subi la même chose. Et là, pareil, j'ai eu affaire à un mur. Et elle m'a simplement dit, oui, mais non, mais... Écoute, ne remue pas le passé, c'est vieux, c'est loin.
Mais vous savez, Céline, je vous félicite parce que c'est courageux d'accepter de reconnaître à quel point sa mère est un personnage toxique. Et peut-être que pour votre sœur, c'est pas possible, elle se serait effondrée. Parce que ça veut dire que vous avez coupé les ponts avec une mère, et c'est quelque chose de très difficile pour quelqu'un.
Par la suite, mais j'ai mis du temps quand même, j'ai attendu 40 ans quand même.
Certes, mais vous avez pu le faire.
Et, oui,
et
oui.
C'est ça qui vous a libéré aussi, malgré tout.
Et elle est restée avec cet homme-là ?
Mais non, puisqu'entre-temps, il est décédé. Ah, donc là aussi, moi, j'ai refusé d'aller à ses obsèques. Oui, forcément. Donc j'ai été la seule sur la fratrie de 5. À refuser d'y aller.
Et est-ce que vous êtes la seule à aller plutôt bien par rapport aux autres ou pas ? Vous diriez ça ?
Je ne sais pas.
Vous savez pas ?
Je dirais que oui, je dirais par rapport à ma moyenne sœur qui, elle, a recherché également le confort. Et je vais dire pas qu'elle s'adonne, je vais dire à l'alcoolisme, mais bon, c'est l'apéro régulier, tout ça. Donc, je veux dire, c'est une façon, voilà. Et ma plus petite sœur, donc, je veux dire, elle a changé de religion. Avec ses enfants, elle ne s'est pas occupée de ses propres enfants.
Oui, on d'ailleurs, voit bien. Elles sont toutes les deux à la dérive, tandis que vous, malgré tout, vous avez réussi à tenir debout. On pourrait dire ça.
Alors moi, j'ai tenu debout parce que je me dis, finalement, je me suis jamais adonnée aux drogues variées et diverses. Par contre, quand je dis oui, ma vie de femme, etc., je pense, j'ai parfois eu quelques difficultés à... même si j'ai des enfants moi-même et maintenant des petits-enfants. Mais je pense que j'ai eu du mal à stabiliser dans une vie de couple, en fait.
Ah oui.
Ça, je m'en rends compte aujourd'hui, puisque bon, j'ai bien au-delà de 40 ans maintenant. Et je me dis que, quelque part, oui, peut-être ça a joué comme tout, enfin, comme tout le monde, je fais une généralité, c'est pas bien, mais d'avoir une vie stable avec ses enfants, ses petits-enfants, être marié.
Bah, c'est plus compliqué de faire confiance quand on a été comme ça abusé.
C'est-à-dire hein. que c'est oui. une règle avec les traumatismes. C'est pour ça que c'est très compliqué de dire faut laisser ça derrière, parce que le traumatisme, il est là tout le temps. On dit que le traumatisme est toujours au présent. On dit que c'est un passé qui est toujours présent. Et donc votre traumatisme, il est là, et puis je dirais même souvent avec l'âge, il revient encore plus fort. Donc c'est pour ça que moi j'encourage à s'en occuper, hein, quand c'est possible, de s'occuper de tout ça, puisque ça vient nous rechercher, c'est là tout le temps. Je pense que vous avez bien compris que c'était là presque tout le temps après.
Oui, Bruno, vous avez totalement raison, puisque avec mon dernier compagnon, avec qui j'étais parfaitement heureuse. Les derniers temps, bon, il y a eu la ménopause qui est arrivée. Et à ce moment-là, je n'ai pas compris. Ça a basculé dans quelque chose où même je refusais quasiment les rapports sexuels en ayant une peur. Il n'a pas compris, en fait.
Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est.
On s'est séparés, d'ailleurs. Hein.
C'est ça qui est compliqué parce qu'en plus, si vous voulez. On met des défenses quand vous avez été abusé enfant comme ça, bon, on met des défenses et puis les défenses elles tiennent, mais quand on vieillit les défenses tiennent moins, alors tout d'un coup le souvenir revient c'est pas des souvenirs, j'appelle ça des mémoires. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui reviennent et qui viennent toquer à la porte et puis l'entourage ne comprend pas.
C'est ça, il m'avait écrit un petit mot, je m'en souviens, en me disant qu'est-ce qui nous arrive, que se passe-t-il, il ne comprenait plus. Parce que dès qu'il s'approchait, j'étais tendue.
Est-ce que vous lui en aviez, vous lui en aviez parlé de ce qui vous était arrivé ?
Oui.
Ah, c'est ça, c'est les hommes ont du mal à comprendre ça. Hein. Ça, c'est sûr que dès qu'il y a des retours de mémoire chez leur compagne, comme ça, leur femme, ils ont du mal. Eux, ils sont là, mais je comprends pas. Viens, on va faire l'amour et tout. Mais non, ça marche plus comme ça. Ils ont du mal à comprendre.
C'est vrai.
Bon, en tout cas, vous avez été un petit peu rattrapé, si je puis dire, hein, par le passé, et c'est peut-être bien que vous compreniez, et que peut-être il y a encore un petit travail à faire pour éviter que vous puissiez être à nouveau en difficulté avec le prochain.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Mais c'est normal, hein, Céline. C'est normal. L'important, c'est quand même, c'est que vous avez réussi, vous, à tenir debout. Et quand on voit bien, hein, les deux autres, les pauvres, elles sont dans des fuites, dans des addictions, dans l'alcool, dans tout ce qui permet d'échapper à la réalité. Mais au moins, vous êtes lucide.
Oui, tant mieux. Hein.
Mais oui, mais bien sûr. Soyez fiers de vous, parce que...
J'aurais un petit conseil à vous donner, parler quand même, hein, même dans la famille, même si c'est pas glorieux, comme je disais tout à l'heure. Vous avez des enfants, des petits-enfants, pour que ça se reproduise pas, faut en parler.
Eh bien, disons que mes enfants sont au courant.
Très bien.
Donc ils l'ont su un peu grand, puisque voilà...
Toujours,
on attend
oui.
quand même que... Voilà. Et mes petites filles, on n'en parle pas, mais par contre... Je les mets toujours en garde. Je dis, tu sais, il faut suivre personne, hein, même si on me propose.
Oui, mais
la
il faut.
Petite, elle a 8 ans, 9 ans, mais ben
justement...
toujours, je dis, tu sais, si on veut te chercher, on va t'amener des choses, des bonbons, des choses que tu aimes. Mais
vous savez, attention, Céline, hein, aujourd'hui, ça se passe plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça. Donc, je crois que c'est bien de lui, à un moment donné, de lui dire avec vos mots à vous, puisque c'est une enfant de 8 ans, hein, mais peut-être que c'est bien quand même.
Parce qu'en plus, si vous voulez, quand on parle comme ça, on a oublié ça. On oublie ça parce que là, on parle souvent d'inceste, et là, c'est de l'inceste. Et pour protéger de l'inceste, il faut bien dire aux enfants que ça existe dans la famille. Parce qu'on dit toujours, méfiez-vous dehors, mais c'est pas dehors. Là, il faut se méfier aussi dedans. Alors, c'est compliqué à dire, mais il faut dire, faut faire attention à tout.
Donc, je la pense un peu petite encore, à
9 ans. Oh, vous savez, 9 ans, c'est l'âge du CM1 à peu près. C'est là où moi je préconiserais vraiment, là, et encore c'est un peu trop tard, de l'éducation sexuelle et de la prévention à ça. Je pense que, vous savez, le problème, même les chiffres disent qu'un enfant de 9 ans a eu probablement déjà accès aux films pornographiques, par exemple, choses comme ça. Donc ils ont accès à des informations, ils sont plus avertis qu'on croit.
Bon, en tout cas, voyez comment vous le sentez, mais je pense que le conseil de Bruno Clavier est important. Et merci, merci beaucoup de votre témoignage.
Merci beaucoup, merci Bruno.
Merci à vous. Une petite pause, on continue évidemment à écouter vos témoignages, parce que c'est ça qui permet à tous ceux qui nous écoutent de mieux comprendre. 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio à Chalon-sur-Saône, en DAB+.
Sud Radio.
S'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face. Entre le feu et la glace, au-delà de nos différences.
Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bruno Clavier est avec nous, on parle des abus sur mineurs et on va donner la parole à William aujourd'hui. Je crois, William, que vous témoignez au sujet de votre fille, hein. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors racontez-nous.
Oui, tout à fait. Eh ben, je suis passé à l'antenne il y a quelques temps justement pour ça. Ma fille s'est fait toucher en fait par son cousin deux nuits de suite.
Elle avait quel âge lors des faits?
Elle avait 13 ans.
13 ans, oui.
13 ans, le petit en a 14, entre 14 et 15 ans. Elle n'en a pas parlé tout de suite. En fait, le premier soir, elle pensait qu'elle avait rêvé. Elle pensait pas une seconde que c'était réel. Et puis en fait, quand ça s'est passé la deuxième fois, elle s'est dit, bah mince, en fait, si, c'est réel. Donc elle en a parlé le lendemain, elle est rentrée chez moi, elle nous en a pas parlé, mais on l'a trouvée très distante. C'est pas du tout son cas en temps normal. Et donc elle en a parlé à des amis peut-être une semaine après. Ses amis lui ont dit, mais il faut absolument que t'en parles à ton papa, à ta maman, et tu peux pas rester comme ça sans rien faire. Et en fait, elle se voudrait, quoi. un jour elle m'en a parlé, mais ça a été très rapide hein, après les faits. Et parce que c'est quelqu'un qui dit les choses, qui garde rien pour elle. Donc voilà, elle nous en a parlé, on a déposé plainte. Et récemment, j'ai eu la gendarmerie qui m'a appelé et que l'affaire était classée sans suite parce que le magistrat estimait que comme il n'y a pas eu de pénétration, bah c'est pas très grave. Donc on laisse.
Évidemment, hein, c'est un traumatisme. On va pas minimiser, mais pas en même temps, c'est vrai que ça n'a rien à voir dans le sens où c'est. On va dire deux ados, 13, 14 ans, alors il a abusé d'elle, hein, je suis pas du tout en train de ne comprenez bien d'accord. Ce que je dis, hein, William. Mais, c'est moins, beaucoup moins grave, évidemment, que ce qu'on vient d'entendre. Mais en attendant, ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, elle a pu en parler à ses parents, et on considère que c'est pas normal. Je suis sûre qu'il y a 20 ans, on aurait dit oh c'est des ados qui jouent au docteur ou des choses comme
ça. Au docteur.
Donc là, je trouve que votre témoignage quelque part montre quand même qu'on avance, parce que je suis désolée cette jeune fille de 13 ans, elle n'avait pas envie qu'on la tripote pendant son sommeil ou quand elle était à moitié endormie. Et c'est pas normal qu'on laisse les choses comme si c'était pas grave, quoi.
Non, ouais. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait même pas eu un suivi psychologique du gosse en question. Et ça, je trouve ça lamentable parce que si. Dans l'absolu, ce gamin a vraiment un problème, et ben il faut qu'il se fasse suivre.
Mais c'est indispensable, je suis bien d'accord.
Mais normalement, le problème, là, normalement, ce qui est un peu anormal, c'est que comme ce sont deux mineurs, il y a quand même à ce moment-là des procédures de... pour mettre de la loi, c'est-à-dire normalement, on doit les confronter, des choses comme ça, et je ne comprends pas que ça n'ait pas eu lieu.
Voilà, j'ai une famille qui est pour la majeure partie gendarme, et ils m'ont tous dit mais c'est inadmissible, pourquoi ils n'ont pas été confrontés,
eh ben oui, quand même.
Pourquoi ta fille est allée voir un psychologue et pourquoi lui n'y est pas allé. J'ai vraiment halluciné, ils ont mis quatre mois pour entreprendre le gamin. Ils lui ont fait une audition qui a duré une heure. Ça m'a fait halluciner. Et le magistrat, alors soit ils avaient trop de boulot, soit la justice est laxiste, je sais pas. Mais en attendant, bah il y a rien eu de tout ça, quoi.
Et lui, qu'est-ce qu'il en dit, le cousin?
Alors lui a nié en bloc.
Ah, il a nié en bloc, d'accord.
Oui, donc voilà, c'est d'autant plus embêtant qu'il n'est pas un suivi, parce que s'il a nié en bloc, ça veut dire qu'il assume pas sa responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno?
Moi, je pense que déjà la première des choses, c'est qu'il faut que la loi, il faut lui signifier la loi à ce garçon, puisqu'il nie, il faudrait que lui signifier la loi. Alors. Ok, le magistrat dit on peut pas faire de condamnation, choses comme ça, mais normalement il y a des procédures pour qu'il soit confronté quand même, et même à sa victime, de façon à ce que la loi lui soit signifiée, puis ensuite évidemment la psy. Mais c'est d'abord la loi.
Parce que sinon il n'a pas de raison de recommencer.
Enfin, plus tard il va violer une fille.
C'est exactement ce que les gendarmes m'ont dit et ce que j'ai pu aussi, parce qu'on a beaucoup parlé avec les gendarmes, parce qu'ils étaient complètement outrés de ce qu'avait dit le magistrat. J'ai dit, moi j'espère qu'une chose, c'est que dans 10 ans ou dans 15 ans, on ne nous appelle pas pour nous dire, voilà, effectivement, en fait, on aurait peut-être dû faire quelque chose parce que ce gamin a récidivé.
Et ses parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils sont dans le déni aussi?
Son père, pas du tout. Son père n'est pas dans le déni. Il met vraiment les choses entre parenthèses. Il fait la part des choses et il se dit, il n'exclut pas le fait que son petit ait fait ça. Et sa mère est, comme toute maman protectrice, elle protège son fils.
Mais c'est une grave. Il faudrait lui dire que c'est une grave erreur, parce que protéger son fils là, c'est lui permettre plus tard d'être réellement.
Bien sûr.
Donc c'est pas une bonne attitude. Enfin, je veux dire,
juger ton attitude, mais c'est vrai que moi, quand
moi
la
je me permets
chose,
de juger parce que je
ça, j'ai mis en cause déjà ma fille. Je l'ai prise, je lui dis je veux savoir la vérité, et même si tu mens, je veux que tu me le dis, dis-le-moi Inès, je veux pas que parce que ça peut prendre des proportions énormes, et si t'as dit ça parce que t'as pensé que, et j'ai bien vu que ma fille ne mentait pas, parce qu'elle était pas bien, elle était mal à l'aise, elle a commencé à me dire mais papa tu me crois pas, mais j'ai voulu quand même prêcher le faux pour savoir le vrai, et quand j'ai vu que ma fille disait la vérité, du moins ce qu'elle me paraissait crédible, j'ai dit bon bah il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on porte au plat quoi.
Bah bon, vous avez au moins fait quelque chose. Vous avez au moins fait quelque chose, c'est-à-dire que la loi a été signifiée au moins. Je sais pas si le cousin l'a entendu, mais au moins votre fille a entendu que ses parents ont fait quelque chose du côté de la loi, donc elle est protégée. Oui. C'est ça qui est important.
Bien sûr. J'ai essayé d'être très présent pour elle et je le suis toujours hein, d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas facile.
Mais quand vous dites qu'il est dans le déni, ça veut dire il dit qu'il s'est rien passé ou il dit que votre fille était consentante?
Ah non, il dit qu'il s'est rien passé.
Oui,
et
donc on voit bien qu'elle
dormait.
D'accord. Donc il est vraiment dans le déni, donc c'est beaucoup plus grave.
Oui, c'est ça.
C'est beaucoup plus grave encore.
D'autant qu'il l'a fait pendant le sommeil, alors. Il l'a fait à moitié dans le sommeil, c'est ça.
Il attendait qu'elle dorme, il regardait, il se levait. De la déposition de ma fille, je l'ai encore sous les yeux. Il se levait pour voir si elle dormait. Dès qu'elle bougeait, il arrêtait. Il s'est masturbé à côté d'elle. Et de ce fait, il a dit, mais non, mais j'ai de l'érythème sur le côté, je me gratte. Il a essayé de...
Ben, on est dans la perversion, hein, William. C'est utiliser votre fille comme un objet et non pas la respecter comme un sujet. Donc c'est quand même très embêtant. Merci de votre témoignage et bravo. Au moins, vous avez été un père responsable. Oui. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite après les infos et on continue à écouter vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Dax.
102.
Sud Radio.
Cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. For you and I, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, it's probably me.